Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury, ce grand oral. À mes côtés, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro.
Bonjour,
bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour Christophe. Et puis le grand jury, vous le savez, est une émission interactive. Vous pouvez réagir toujours en direct sur les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Vos commentaires, vos questions à Valérie Pécresse. Et donc en fin d'émission, Marie-Pierre Haddad viendra les relayer à la ministre dans Question Nette. Alors Valérie Pécresse, c'était le 15 mai, porte-maillot à Paris, devant quelques milliers de militants des Républicains, vous étiez lyrique. Écoutez.
Alors oui, notre rendez-vous de ce soir, c'est celui de l'amitié. Mais je crois que c'est aussi le rendez-vous de la fidélité.
Valérie Pécresse, c'était il y a à peine 3 semaines. Votre camp était soudé derrière son candidat aux européennes, François-Xavier Bellamy. Amitié, fidélité, unité retrouvée, c'est vous-même qui le disiez, le vantiez. Que valent aujourd'hui ces mots pour vous? Car, comme d'autres avant vous, bien vous avez décidé de larguer les amarres, de quitter avec fracas cette semaine cette droite à laquelle vous avez toujours appartenu. Mais pourquoi aussi tard? Pourquoi partir quand tout va mal? N'est-ce pas une solution de facilité? Nous en parlerons, bien sûr. Et puis pourquoi faire? De quel bois exactement est faite votre droite, notamment en matière de sécurité, par exemple? Ce sera d'ailleurs la question en plus de Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, qui reviendra sur une proposition que vous aviez faite ici même, il y a quelques mois, dans le grand jury. Vos idées, Valérie Pécresse, sont-elles si éloignées de celles d'Emmanuel Macron que tant de vos électeurs ont rejoint? Pourquoi donc ne pas travailler avec lui? Vous voyez, beaucoup de questions aujourd'hui. Vous avez été avec vos déclarations la femme de la semaine. Nous revenons d'ailleurs sur ces déclarations. La première question vous est posée par Christophe Jacubizine.
Oui, Valérie Pécresse, tout le monde a vu dans cet abandon de votre famille politique une démarche personnelle, une démarche peut-être présidentielle pour 2022. Est-ce que vous confirmez?
D'abord, je veux expliquer quel est le sens de ma démarche, parce que je vois que Benjamin Sportouche ne l'a pas comprise, puisqu'il dit que j'ai quitté la droite. Alors, permettez-moi de vous dire tout de suite.
Beaucoup de gens, visiblement,
n'ont pas compris. Écoutez, voilà, c'est quelque chose de très différent. Je vais vous expliquer ma démarche qui s'est déroulée en 3 temps. Premier temps, la défaite la plus cinglante de notre histoire. Qui conduit à quoi? À ce que la droite n'incarne plus une troisième voie crédible entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et j'ai la conviction que si, très vite, il n'y a pas un électrochoc, eh bien, nous allons disparaître. Et si nous disparaissons, si la droite disparaît, alors un jour, Marine Le Pen, avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen, dirigera la France. Et cette femme, qui est aujourd'hui la marionnette de Trump et de Poutine, mettra le pays en faillite et provoquera le chaos. Donc ça, c'est la premier constat. Deuxième constat, le constat d'un parti, les Républicains, totalement cadenassés, totalement verrouillés, qui organisent dans la précipitation des élections internes pour se choisir un président en octobre, dans un parti déserté par les militants et en pleine municipale, c'est-à-dire au pire moment pour faire l'inventaire de la ligne. Deuxième étape. Troisième étape, je vais voir Gérard Larcher, le président du Sénat, dès lundi, et je lui dis « Gérard, il faut que tu prennes une très grande initiative ». Il me dit « J'y suis prêt ». Cette initiative, ça s'appelle la grande alternative. C'est un rassemblement du centre et de la droite sous l'égide de Gérard Larcher, qui est le grand rassembleur de la droite aujourd'hui, le point d'équilibre de la droite.
Et bien alors voilà, il vous propose.
Et qui dit, attendez, pardon, monsieur Sportouche, est-ce que vous pouvez juste me permettre de terminer? Et donc, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette alliance de Gérard Larcher, il faut qu'il y ait le centre, il faut qu'il y ait les Républicains, c'est-à-dire la droite conservatrice, et pour que l'alliance réussisse, il faut qu'il y ait un pilier très solide, très fort de droite moderne. Et cette droite moderne, il faut la reconstruire, il faut l'incarner.
Donc
il faut
qu'elle propose. Donc c'est vous la droite moderne, Valérie Pécresse, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui.
Je souhaite aujourd'hui construire ce pilier de droite moderne. Et tous ceux qui aujourd'hui sont derrière moi souhaitent aussi. Et il y a urgence, monsieur Sportouche, il y a urgence à reconstruire une autre sensibilité de la droite.
Mais il faut quand même que vous répondiez pour être en toute transparence, puisque vous voulez faire œuvre de transparence, d'honnêteté dans votre démarche. Est-ce que vous avez une ambition présidentielle, Valérie Pécresse?
Mais aujourd'hui, j'ai surtout l'ambition qu'on construise cette grande alternative à Emmanuel Macron.
Mais l'alternative, Valérie, on est en 5e République, on est dans un régime présidentiel. L'alternative, elle sera possible uniquement que pour une élection présidentielle. Est-ce que vous pourriez être l'incarnation de cette alternative?
Mais je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste que vous ne m'interrogez pas sur cette droite moderne que je veux construire et à quoi elle peut servir.
Est-ce que vous avez cette ambition ultime ou pas? Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette ambition?
Aujourd'hui, ma seule ambition, c'est de bien gérer une région qui m'a été confiée, qui s'appelle la région Île-de-France. Et je pense que c'est très indécent de parler de 2022 aux Français qui attendent que les politiques se retroussent les manches pour apporter des solutions à la crise d'autorité, à la crise d'autorité du pays, au problème de pouvoir d'achat, à l'overdose fiscale et au problème de fracture qui mine le pays.
Vous parlez vous-même de 2022 en disant attention, si on ne fait rien,
Marine Le Pen dirigera le pays.
Donc ça, c'est l'échéance 2022.
Oui, et bien pour préparer cette échéance, il faut que la droite se reconstruise. Et pour qu'elle se reconstruise, sous l'égide, là encore je l'ai dit, de cette initiative de Gérard Larcher qui est la bonne, eh bien il faut qu'il y ait trois piliers. Un pilier de droite conservatrice, c'est les Républicains, ils l'assument, et c'est très bien. Et puis, un pilier centriste qui existe, avec lequel il faut à nouveau faire des alliances, parce que moi j'ai complètement combattu la stratégie complètement mortifère qu'ont adopté les Républicains, qui consistait à s'éloigner des alliances stratégiques que nous avions toujours eues avec le centre-droit.
Mais vous
donc
avez
il y a le centre-droit, il y a la droite conservatrice, il doit y avoir la droite moderne et elle doit s'incarner. Et cette droite moderne, c'est une droite qui assume de remettre la question économique et sociale, j'allais dire, à un rang de priorité numéro un. À côté de la question identitaire, il y a la question économique et sociale. Et la droite n'a pas parlé de social. Il ne suffit pas de dénoncer l'assistanat. Nous voulons une droite qui a du cœur. Nous voulons une droite qui a une ambition économique, qui veut faire gagner la France dans la bataille de l'emploi, dans la mondialisation. Nous assumons une droite qui est laïque. Je suis catholique. Vous me connaissez, je ne me suis jamais excusée de l'être. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans une France qui est totalement diverse, totalement multiple, la laïcité est le seul ciment et qu'il faut imposer qu'aujourd'hui, alors, la loi de la République est au-dessus de toutes
Valérie
les
Pécresse,
fois.
Est-ce que vous pouvez,
mais tout ça, j'ai pas réussi
pouvez rassurer,
à le dire.
Bah, est-ce que vous pouvez quand même rassurer
la droite
ceux qui
doit
vous écoutent,
être écologique.
On va en parler du fond. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui
c'est
à ceux
quand même
qui
ce qui intéresse les Français, Monsieur Sportouche.
Oui, mais ce qui les intéresse, ce qui a été dit aussi par ceux qui étaient ceux qui sont encore républicains, c'est Valérie Pécresse utilise Libre, donc votre association, comme une écurie présidentielle. Ce qu'elle veut, c'est s'affranchir du mouvement pour un destin personnel. Est-ce que vous leur dites aujourd'hui non? Ce n'est pas mon ambition, moi je veux uniquement être sur les idées.
Mais vous avez, je ne sais plus comment le dire, hein. Je vais le dire une troisième fois.
Visiblement, ils n'ont pas,
je le dis
mais
une troisième fois.
Compris.
Je joue collectif, je joue avec le centre droit, je joue à côté des LR, mais je joue dans le cadre de l'initiative de Gérard Larcher. Je joue collectif, mais j'élargis la droite. Parce que, il vient d'avoir un appel de 72 maires.
Oui.
Vous l'avez peut-être vu ce matin.
Bien 72 maires, donc voilà.
Vous le condamnez leur démarche, puisque ces 72 maires LR appellent à soutenir la politique d'Emmanuel Macron.
Eh bien, soyons très clairs. Moi, je quitte les LR, mais je reste de droite et je reste dans l'opposition. Mais, et donc je ne partage pas du tout leur appel, mais, ne croyez-vous pas que cet appel de 72 maires de la droite et du centre montre encore plus, s'il en était besoin, l'urgence de construire une droite moderne, une droite qui corresponde à la sensibilité de ces maires de droite et du centre qui ont toujours été dans notre famille politique.
Vous regrettez quand même que du coup ils enfoncent un peu plus un coin chez les Républicains.
Mais, pardon de le dire, ils confirment totalement mon intuition. Si nous n'arrivons pas.
Mais pourquoi ils ne vous rejoignent pas, vous, Valérie
Monsieur
Pécresse
Sportouche,
pourquoi
Monsieur,
ils vous
Monsieur
pas
Sportouche,
vous
mais parce que pour l'instant, on n'a pas créé Libre encore. On n'a pas créé. Je voudrais juste vous citer un élu picard. Il s'appelle Christophe Coulon. Il est venu à la réunion que Larcher a organisée la semaine dernière. Il a dit « Nous sommes comme des commerçants qui s'interrogent pourquoi il n'y a personne dans la boutique. Mais si, à l'heure du streaming, nous vendons encore des magnétoscopes, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait personne dans la boutique. Tout est en train de changer.
Donc,
Le travail est en train de changer. L'environnement, la préoccupation environnementale est en train de devenir prégnante. On est à l'heure du MeToo. Pardon, mais la droite, elle doit s'impliquer sur tous ces sujets. Les fractures territoriales, la situation explosive de nos banlieues, la lutte, les questions de sécurité aussi, sur lesquelles Emmanuel Macron est totalement en dessous de ce qu'il faudrait faire et des réponses
qu'il
faudrait apporter.
Mais c'est les électeurs de la droite moderne, est-ce qu'ils ne sont pas partis chez Emmanuel Macron aux dernières européennes?
C'est une très bonne question. Mais bien sûr que oui, ils sont partis. Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, à la porte maillot, puisque vous m'avez fait la gentillesse de me montrer cet extrait, à la porte maillot, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il va falloir se retrousser les manches pour aller chercher les électeurs, nos électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron. Et à ce moment de mon discours, la salle a sifflé. À ce moment de mon discours, la salle a sifflé. Ça veut dire que nous avions aujourd'hui une salle de militants, une salle d'adhérents, qui étaient très convaincus de la ligne de François-Xavier Bellamy, mais qui ne voulaient plus rien avoir à faire avec tous les Français qui aujourd'hui sont de droite, mais ont été votés Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les messages de soutien que je reçois...
À chaque fois que vous allez dans un meeting, c'est vrai, quand vous posez une position centriste, centrale, vous êtes hué, ou en tout cas, il y a des manifestations hostiles. Pourquoi, depuis deux ans, vous n'avez pas quitté, à ce moment-là, les Républicains, juste après la présidentielle ?
Monsieur Sportouche, je vous reprends là encore. Je ne présente aucune proposition centriste. Je suis de droite. Je suis de droite, je suis pour l'autorité, je suis pour la liberté, et je suis pour une vision du social qui soit une vision du social qui lutte contre les inégalités de destin et qui fasse de l'équité. Pardon, mais... Effectivement, il y a deux droites. Il y a deux droites en France. Je l'ai théorisé en 2017 à un Conseil national où, effectivement, j'avais été très chahutée parce que j'avais posé un diagnostic que personne ne voulait voir, mais qui est la réalité de la sociologie politique de notre pays. J'ai cru pendant deux ans qu'on pourrait réconcilier ces deux droites.
Vous êtes trompée.
J'ai œuvré pendant deux ans à essayer de faire entendre une petite musique différente au sein des Républicains. Souvenez-vous, j'ai demandé qu'on déclare démissionnaire d'office. Non seulement les constructifs, on a eu beaucoup de mal à le faire, mais aussi
ceux qui sont
les fusionnistes, ceux qui appellent à la fusion entre la droite et l'extrême droite. Ils sont toujours dans les Républicains. Ils n'ont jamais été démis d'office.
C'est maintenant que vous pouvez faire entendre cette petite musique chez les Républicains, non ? Il va y avoir une élection, vous pouvez vous présenter.
Puisque Wauquiez était parti.
Mais justement non.
C'est là qu'on comprend
mais,
pas.
Mais bien sûr que si. Vous allez très vite comprendre. L'élection a été fixée sans que personne ne soit consulté. Elle a été fixée en octobre, c'est-à-dire dans trois mois. Il va y avoir l'été. Donc, de manière totalement précipitée, dans un parti qui est vidé de ses adhérents. Parce que permettez-moi de vous dire que tous les adhérents qui ne partageaient pas la ligne de Laurent Wauquiez et de François-Xavier Bellamy...
Il en reste 70 000,
ils n'ont pas renouvelé leur cotisation. Donc aujourd'hui, nous avons un parti vidé de ses adhérents. Nous avons une élection en octobre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en pleine municipale, alors que le combat municipal est aussi crucial pour la droite et le centre, qu'il l'est ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste nos communes, il nous reste nos villes. Et aujourd'hui, moi, je vais être puissamment, en octobre d'ailleurs, c'est là que je serai, je vais être puissamment en soutien de nos maires. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux.
Vous allez leur donner une...
C'est eux oui. aujourd'hui, pardon, je finis, s'il vous plaît. C'est eux qui tiennent, aujourd'hui, dans leurs mains, cette droite qui rassemble et l'avenir de la droite. Donc, il n'est pas question, en octobre, d'aller se chamailler sur la ligne. Ce choix d'octobre, c'est celui du refus de l'inventaire
sur la ligne. Mais juste une petite question sur l'émission. Est-ce qu'ils auront une étiquette libre, le nom de votre mouvement, par exemple ? Vous voulez avoir des maires qui se reconnaissent et se prennent sous votre étiquette ?
Je soutiendrai tous les maires qui défendront les valeurs de la droite et du centre dans le cadre et sous l'égide de la Grande Alliance de Gérard Larcher. Je soutiendrai les maires centristes, je soutiendrai les maires de droite moderne, je soutiendrai les maires LR.
Valérie Pécresse, revenons aux Français, aux électeurs de droite qui
votent... Et d'ailleurs, je ferai une charte qui montrera les valeurs que nous défendons dans ces municipales. Ouais. Des valeurs de social, d'écologie, d'attractivité économique, d'exemplarité, de gestion. Parce que là encore, pardon de le dire, mais la baisse des impôts, ça passe par la baisse de la dépense publique. Ouais. Si on pouvait faire un tout petit travail de gestion...
Ce mouvement aura un nom ou est-ce que vous serez toujours, sera libre. Toujours libre ? Vous gardez libre. Et est-ce que vous aurez un groupe à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous espérez avoir un groupe à l'Assemblée nationale ?
Non, ma démarche n'est pas une démarche qui brise l'unité de la droite. Ma démarche se situe dans le cadre de l'unité de la droite, mais je veux l'élargir. Et donc le sujet aujourd'hui n'est absolument pas pour moi de faire une sécession, de créer artificiellement des divisions. Aujourd'hui, les parlementaires qui se reconnaîtront dans Libre exprimeront une sensibilité un peu différente sur un certain nombre de sujets de celle des Républicains. Je vous donne un seul exemple.
Mais vous faites sécession, c'est ça ou on ne comprend pas ? Vous dites que vous ne voulez pas briser l'unité, mais vous faites sécession.
Pour incarner un pilier de droite moderne. Je vous donne un exemple, M. Sportouche, pour que les gens comprennent bien. Il a fallu se positionner sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Un certain nombre de parlementaires ont décidé de se mettre avec la France Insoumise pour contester cette privatisation. Alors, il y a des bonnes privatisations, il y a des mauvaises privatisations. Bien sûr, il faut être vigilant sur les conditions. Et je ne critique absolument pas ceux qui s'inquiètent des conditions de la privatisation, surtout venant du gouvernement d'Emmanuel Macron, avec un Bruno Le Maire qui a dit que cette privatisation, c'était uniquement pour récupérer de l'argent. Non. La privatisation de l'ADP, c'est pas que pour récupérer de l'argent. On vend pas les bijoux de famille pour récupérer de l'argent. Non, mais la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est est-ce que Roissy est en mesure aujourd'hui de gagner la bataille de la mondialisation avec un actionnaire public? Est-ce que cet actionnaire public est en mesure de financer le développement de Roissy? Ces questions-là, on ne se les est pas posées parce qu'on ne parle pas d'économie.
On reviendra notamment là-dessus.
Il y a 50 000 emplois à Air France Maintenance, premier employeur à Roissy.
On parlera de ce sujet économique, bien sûr, dans la deuxième partie.
Revenons aux Français et aux électeurs notamment qui ont voté Emmanuel Macron aux européennes, aux anciens électeurs LR. Dans une interview au Point, Emmanuel Mignon, vous la connaissez bien, les conseillers Nicolas Sarkozy, dit que Emmanuel Macron est le meilleur président de droite que la France ait connu depuis longtemps. Ça explique le vote des électeurs LR, des anciens électeurs de droite, pour Emmanuel Macron.
Je crois qu'elle a tort. Emmanuel Macron n'est pas de droite et c'est une mystification. D'ailleurs, dans la même interview, Emmanuel Mignon dit...
Mais donc ancienne directrice de cabinet à l'Élysée. Hein,
oui, mais Emmanuel Mignon, dans la même interview, dit une phrase qui est très forte. Elle dit, mais il ne fait pas la moitié de ce qu'il faudrait faire pour redresser vraiment la France. Voilà, il ne fait pas la moitié.
Mais néanmoins, le meilleur président de droite, dit-elle depuis longtemps.
Mais écoutez, Emmanuel Mignon, c'est Emmanuel Mignon, pardon de vous dire, elle n'est pas aujourd'hui en responsabilité.
Non, mais elle reflète
n'est pas en responsabilité
ce que les électeurs
politique.
De droite, une partie, pensent aujourd'hui.
Mais oui, mais vous savez que c'est. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Depuis que j'ai décidé d'incarner la droite moderne, je reçois des dizaines, des centaines de SMS et de mails de leur part, me disant enfin, vous nous. Redonner espoir, on va avoir un désir de droite. Je voudrais revenir sur cette question parce que je pense que M. Roquette va me la poser, mais pourquoi...
Attendez, on va peut-être lui laisser la poser
alors,
d'abord.
Posez-la,
alors,
posez-la.
Guillaume Roquette.
Parce qu'il parle d'Edouard Philippe.
Guillaume Roquette. Oui, je vous parle de la droite. Edouard Philippe aussi dit qu'il est de droite. Il y a un certain nombre de ministres économiques qui viennent de cette droite. On ne comprend vraiment pas bien ce qui vous différencie d'eux aujourd'hui.
Eh bien, je vais vous le dire. Emmanuel Macron n'est pas de droite sur la sécurité et l'autorité, sur l'immigration. Il se trouve que depuis, trois ans, je me bats contre une disposition législative absurde qui a été votée il y a une décennie, qui m'oblige à donner 50% de réduction dans les transports à tous les étrangers en situation irrégulière.
Qui vous oblige comme présidente de la région Île-de-France?
Comme présidente de la région Île-de-France, je dois donner 50% de réduction à tous les clandestins. J'ai proposé 4 fois des amendements à la loi pour changer cette disposition. Cette semaine, l'ALRM a encore voté contre.
La République En Marche.
La République En Marche a encore voté contre. Un autre exemple, Madame Schiappa, ce matin. Madame Schiappa, ce matin, dit « Ah, c'est très mal d'harceler les femmes dans les trains ». Elle a totalement raison, c'est un de mes combats, et c'est notamment un de mes combats dans les transports en commun dans ma région. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé que les multirécidivistes, parce que les harceleurs de femmes, excusez-moi, ils ne se découvrent pas harceleurs du jour au lendemain, ils sont harceleurs, j'allais dire, chroniques. Les multirécidivistes du harcèlement, les multirécidivistes pickpocket, j'ai demandé une disposition pour qu'ils soient interdits du réseau de transport en commun, qu'il y ait une peine complémentaire. Eh bien, évidemment, la République En Marche a voté contre. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que sur l'autorité, il a occulté le volet sanctions sans lequel il n'y a pas de politique d'autorité dans le pays. Donc, il n'est pas de droite sur l'autorité. Il n'est pas de droite non plus
malgré
sur l'économie.
Malgré une loi anti-casseur qu'il a fait voter et qui, semble-t-il, a séduit les électeurs de
mais
droite.
Mais il y a beaucoup de paroles et il y a très peu
donc
d'actes.
Donc, pour vous, il n'est pas de droite, pardon, mais pour une bonne pardon. Partie des électeurs,
non, attendez,
il l'est.
Je peux remultiplier, si vous voulez, un autre exemple sur l'immigration. Cette semaine, Jean-Noël Barrot, député de la majorité, fait un rapport pour nous expliquer qu'il faut arrêter les expulsions de migrants. Il faut arrêter les expulsions de migrants parce que ça coûte trop cher. Il faut les payer maintenant pour qu'ils rentrent.
Donner une aide au retour.
Oui, les retours aidés qui fonctionneraient mieux que les expulsions qui coûteraient trop cher.
Le message qu'on envoie, c'est venez en France, on vous donnera de l'argent pour rentrer chez vous. Excusez-moi de vous dire, quelle démission de l'État. Alors moi, j'ai d'autres chiffres à proposer à La République En Marche. Oui, ça coûte 500 millions d'euros d'expulser les clandestins qui sont illégalement en France et qui ne respectent pas la loi française. Mais ça coûte 1 milliard d'euros par an, rien que dans ma seule région, 1 milliard d'euros par an de les héberger. Voilà. Alors peut-être qu'on ferait mieux de les expulser. Pardon, ça c'est sur l'autorité, mais je voudrais parler de l'économie, parce que l'économie,
on va y venir.
Dire...
Attendez, on va y venir.
Mais oui, mais c'est important, parce que Emmanuel Macron n'est pas non plus de droite en matière d'économie.
C'est vrai que vous avez fait campagne comme Édouard Philippe pour Alain Juppé, au moment de la primaire de la droite. On s'en souvient, vous, la première.
J'étais l'aile droite du juppéisme.
Ah, vous étiez l'aile droite du juppéisme. Mais alors, aujourd'hui, on se dit, si Emmanuel Macron, eh bien, à un moment donné, souhaite prendre un nouveau Premier ministre, et qu'il fait appel à vous, parce qu'il se dit que vous pouvez être dans une démarche aussi compatible sur certaines thématiques. Est-ce que vous l'accepteriez ou pas, Valérie Pécresse ?
Non, merci.
C'est définitif ?
Non, merci. Aujourd'hui, j'ai une région à gérer, j'ai un mandat, et j'irai jusqu'au bout de ce mandat. Les électeurs de ma région m'ont fait confiance pour rompre avec 17 ans d'immobilisme socialiste. Aujourd'hui, je fais la révolution des transports, je fais la révolution pour l'emploi, je leur permets d'apprendre les langues, je leur permets d'apprendre le français pour ceux qui ne le parlent pas. Je lutte, je fais la transition écologique à marche forcée. Jamais on a eu une ambition écologique aussi grande pour une région et jamais on a eu autant d'ambitions sociales. Et je lutte contre le communautarisme pied à pied, contre la radicalisation islamique dans mes banlieues. Donc oui,
Vous voulez faire une
politique qui est une politique importante parce que les Français, ils veulent de la constance et ils veulent de la politique par la preuve.
Vous aurez besoin d'un deuxième mandat pour mener tout ça bien.
Mais écoutez, vous le saurez, Monsieur Roquette, quand je le déciderai.
Ça veut dire que vous ne savez pas encore aujourd'hui si vous serez candidate à votre succession.
Mais
à
qui la le sait aujourd'hui? Qui le sait aujourd'hui?
Mais si vous avez un bilan et que vous souhaitez le défendre, on imagine que vous y pensez. Écoutez,
franchement, tout ça, et franchement, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec la gravité du moment. La gravité du moment, c'est d'essayer de rebâtir une droite qui séduise les Français, qui leur donne envie de se rassembler autour d'un projet de redressement de la France beaucoup plus ambitieux que celui d'Emmanuel Macron.
Certains disent, Valérie Pécresse a vu les résultats des européennes dans sa région. Elle s'est rendue compte qu'en fait, la droite n'était pas majoritaire. Donc elle quitte les Républicains pour se présenter et avoir un électorat plus large. Voilà aussi ce que disent vos détracteurs éventuellement. Que leur répondez-vous? Et d'ailleurs, est-ce que vous vous présenterez sous l'étiquette LR ou une autre étiquette? On ne sait pas.
Monsieur Sportouche, les élections locales, ça ne se passe pas comme ça. Les élections locales, ça se passe sur des enjeux locaux. Il n'y a pas un francilien qui ne me connaît pas et qui ne me positionne pas sur l'échiquier politique. Les franciliens, les habitants de l'Île-de-France, ils me connaissent. J'ai été élue sur un programme clair de rupture avec 17 ans d'immobilisme socialiste. J'ai rassemblé pour cela du MoDem jusqu'à Sens Commun. Et aujourd'hui, donc de la droite conservatrice jusqu'au centre gauche, j'ai fait une très large rassemblement.
Mais vous serez la candidate de droite.
Mais je suis de droite, Et par ailleurs, tout le monde le sait. Et par ailleurs, je reste dans l'opposition à Emmanuel Macron. À la cinquième réponse, Monsieur Sportouche, je pense que vous allez me comprendre.
On espère que les auditeurs et les spectateurs vous comprendront.
Les auditeurs et les spectateurs comprennent beaucoup mieux que vous, beaucoup mieux que vous, les commentateurs.
Et est-ce qu'on dit le contraire?
Et est-ce qu'on a bien compris quand on entend que vous n'êtes pas encore sûr de vouloir faire un mandat supplémentaire à la tête de la région?
Ma décision m'appartient et je la prendrai quand je le souhaiterai.
Christophe Jacubiézine.
Est-ce que les Républicains ont un avenir? Vous avez dit tout à l'heure, c'est intéressant, c'est un parti conservateur. C'est un Tea Party quelque part?
Non, on a besoin d'une droite conservatrice. On a besoin d'une droite conservatrice, une droite qui existe, qui est estimable, respectable.
Vous voulez cantonner à ce créneau
Trocadéro,
si je puis dire.
Je peux vous répondre? On a besoin d'une droite conservatrice. Pourquoi? Parce que ça correspond à une sensibilité de la droite qui est estimable, qui est respectable et qui a besoin aussi de se reconnaître dans un parti politique. Voilà. Et moi, je crois que si nous n'incarnons pas aussi, dans le cadre de l'alliance de Gérard Larcher, cette droite conservatrice, beaucoup de nos électeurs partiront au Front National.
Nadine Morano, qui ce matin disait que vous ne supportez pas le débat et que vous ne supportez pas d'être minoritaire. C'est pour ça que vous êtes parti. Voilà ce qu'elle dit.
Je crois que tous ceux qui ont écouté Nadine Morano ce matin ont peut-être un peu mieux compris pourquoi j'ai quitté les Républicains.
Mais vous voulez quand même faire alliance avec elle, c'est paradoxal. Parce que vous aussi, vous êtes assez agressive à son égard à l'instant. Or, vous nous dites, on va faire une alliance avec les Républicains, est-ce que c'est possible?
Mais gouverner, c'est rassembler. Gouverner, c'est rassembler des gens qui sont différents. Quand Emmanuel Macron prend sur la même liste un dirigeant de la FNSEA et de l'autre côté Pascal Canfin, eh bien, il rassemble. Il rassemble. Il rassemble sur un projet commun qui est un projet de compromis.
Quand Donc, j'ai fait Pécresse, Morano, ça sera rassemblé.
On verra. Mais monsieur Jakubizine, prenons un exemple. Dans ma région, aujourd'hui, je vous ai dit, je rassemble très très largement, mais je rassemble sur un projet de gouvernement. Alors quelquefois, ça tiraille. Quelquefois, par exemple, quand je finance la marche des fiertés, ça tiraille.
Donc vous
mais moi, je pense qu'il faut maintenir le financement de la région pour la marche des fiertés. Pourquoi ? Parce que ma région, c'est la région de la liberté d'expression.
La marche des fiertés, c'est une marche homosexuelle.
C'est ça, la marche des fiertés, je pense que tout le monde la connaît.
De défense
des droits des homosexuels. Mmh. Eh bien, pourquoi je continue de la financer ? Parce que cette marche, elle est interdite dans un certain nombre de pays du monde. Et que ma vision de la région Île-de-France, c'est que c'est la région dans laquelle la liberté d'expression est garantie. Alors, je ne partage pas tous les mots d'ordre de la marche des fiertés, loin de là. Mais ce n'est pas parce que je ne partage pas leurs mots d'ordre, comme dirait Voltaire, que je veux les empêcher de les exprimer.
On reviendra
vous avez évoqué à plusieurs reprises cette expression de droite conservatrice. Qu'est-ce que c'est pour vous le principal marqueur de cette droite-là ?
C'est, je pense, une droite qui se focalise d'abord sur des questions d'identité avant de se focaliser sur des questions économiques. C'est une droite qui n'a pas apporté un certain nombre de réponses à un certain nombre de sujets.
Par exemple,
L'écologie positive aujourd'hui doit être au cœur du projet de la droite, on n'en a pas parlé. La question de l'émancipation des femmes est une question, à mon avis, pour moi, cruciale dans la société française qui vient, d'autant plus qu'elle peut être remise en cause, y compris dans nos banlieues, dans nos quartiers populaires. Donc je crois que l'émancipation des femmes est un sujet crucial, j'ai essayé de le porter, tentative totalement vaine, au sein des Républicains, en défendant un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur.
Est-ce que le parti dirigé par Laurent Wauquiez est devenu un parti populiste pour vous ? Est-ce que c'est aussi ça que vous reprochez à Laurent Wauquiez ?
Mais ce qualificatif, je ne l'ai pas employé, donc je ne vois pas pourquoi je l'emploierais. Non, je vous dis, il y a une ligne conservatrice très claire. La question, c'est est-ce qu'on arrive à faire vivre et cohabiter les deux lignes.
Oui.
Droite moderne et droite conservatrice dans le même
mais
parti.
Tout le monde se demande...
J'ai essayé pendant 2 ans.
Vous avez essayé, mais tout le monde se demande si le péché originel, ce n'est pas pour Laurent Wauquiez de ne pas avoir appelé à voter Emmanuel Macron en 2017. Vous aviez dit à titre personnel que vous votiez Emmanuel Macron. Mais en aucun cas, à l'époque, vous n'aviez appelé concrètement à le faire.
Ben si, bien sûr que si.
Vous n'avez pas fait les deux. Vous avez appelé, vous avez dit personnellement vous tiez. Mais vous pensez que c'était quand même la ligne rouge que n'a pas respecté Laurent Wauquiez ?
Pardon, monsieur Sportouche, moi j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Simplement, je respecte les électeurs. Je pense qu'ils n'aiment pas, ils aiment pas les consignes de vote. Donc,
voilà,
moi j'ai toujours fait les choses, j'allais dire en clarté, en transparence et peut-être un peu en courage. Parce que je n'ai jamais été dans l'habileté. Moi, j'ai toujours dit pour qui je votais. Je l'ai dit à la primaire de la droite, j'ai dit que je votais Juppé. Je l'ai dit au présidentiel, j'ai dit que je votais Macron. Et je l'ai à nouveau dit aux européennes, où j'ai clairement dit que je votais François-Xavier Bellamy. Donc, je suis désolée, moi, je n'ai jamais été dans l'habileté, je ne me suis jamais dérobée. Et je pense qu'un homme ou une femme d'État, ça dit son vote.
Oui. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre grand jury, Valérie Pécresse. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Christophe Jakubizine de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie, Valérie Pécresse.
Vous avez appelé au rassemblement des différentes droites, centristes, modernes, conservatrices. Le dernier à y avoir réussi, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que la droite a besoin de lui aujourd'hui ?
Je pense que la question le concerne plus que nous, parce que aujourd'hui Nicolas Sarkozy a pris de la distance vis-à-vis.
Il vous a appelé après votre annonce ?
Non, c'est moi qui l'ai appelé avant mon annonce. J'ai appelé deux personnes. J'ai appelé Gérard Larcher pour lui dire que je me situais vraiment complètement dans le cadre de sa grande alternative à Emmanuel Macron. Et j'ai appelé Nicolas Sarkozy pour lui annoncer mon départ.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il a été un peu surpris, mais je crois qu'il a compris. Il a compris mes motivations. Il a compris que je n'arrivais plus à faire vivre, j'allais dire, les valeurs de droite telles que je souhaite les exprimer dans les Républicains.
Et aujourd'hui, vous ne lui lancez pas un appel pour qu'il revienne. Vous ne dites pas, Nicolas, tu es finalement le seul à pouvoir nous réconcilier.
Aujourd'hui, au stade où nous en sommes, le sujet, c'est d'abord de rebâtir un projet alternatif à Emmanuel Macron. Mais... Qu'est-ce qu'on propose, monsieur Jakubizine ? On parlait des sujets de société tout à l'heure avec Guillaume Roquette. Moi, je crois, par exemple, que la droite moderne, c'est une droite qui ne doit pas dire aux Français qui doivent aimer et comment ils doivent partir. C'est une droite qui les laisse libres dans leur vie privée.
Mais Nicolas Sarkozy, vous aurez dit d'être patienté un petit peu. Est-ce que c'est le cas ou pas avant de partir.
Nicolas Sarkozy a eu le réflexe, évidemment, qui est le sien, mais je comprends. Pour moi aussi, c'est un déchirement de quitter ce parti. Parce que j'aurais souhaité pouvoir le refonder de l'intérieur. Il a eu le réflexe de se dire je veux garder tout le monde dans la famille. Mais je crois qu'il a compris mes motivations et il m'a proposé d'ailleurs qu'on en parle très rapidement.
Christophe Jacubizine, sur notre actualité de la semaine.
Le mariage Renault-Fiat Chrysler a échoué, notamment parce que le gouvernement français actionnaire de Renault avait posé un certain nombre de conditions que les actionnaires italiens, la famille Agnelli, n'ont pas acceptées. Qui est responsable de cet échec ?
D'abord, je veux vous dire que je suis extraordinairement préoccupée et inquiète de l'échec de cette fusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des centaines de milliers d'emplois en France qui sont concernés dans l'industrie automobile aujourd'hui, mais surtout demain, puisque l'enjeu, c'est de bâtir le véhicule autonome, le véhicule décarboné, le véhicule du futur. Où sera-t-il construit ? Et dans une industrie où la taille de l'entreprise, le nombre de voitures produites est absolument crucial pour amortir les coûts de recherche et de développement, eh bien, le fait que cette fusion ait échoué est une extraordinairement mauvaise nouvelle pour Renault et pour l'emploi en France. Donc, et j'ajoute que tout cela arrive après l'échec de la fusion Alstom-Siemens que j'appelais de mes voeux et qui a été rendue impossible par une réglementation.
Par le droit européen.
C'est ça, par une réglementation de la concurrence européenne qui est complètement obsolète et qui fait complètement l'impasse sur l'arrivée du géant chinois du ferroviaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette fusion ? Quels enseignements il faut en tirer ? Quand l'État actionnaire défend l'emploi et la localisation des centres stratégiques en France, il est légitime. Mais l'État banquier d'affaires, c'est complètement contre-productif et ça n'est pas son rôle. Il faut laisser les dirigeants de Renault négocier cette fusion.
Donc vous dites, vous espérez toujours cette fusion avec Fiat. Vous dites à l'État, laissez faire.
J'espère que les négociations pourront reprendre. À ce stade, tout a l'air d'être complètement fracassé. J'espère sincèrement que les négociations pourront reprendre et que l'État restera à sa place.
Vous accusez le gouvernement français et Bruno Le Maire d'avoir fait échouer cette fusion ?
Je n'accuse personne. Je dis juste que l'État, quand il est actionnaire minoritaire, a un rôle à jouer dans la préservation de l'emploi et les centres stratégiques, mais certainement pas se substituer aux dirigeants d'une grande entreprise.
Or, c'est le rôle d'un actionnaire de faire ça,
de se substituer aux dirigeants d'entreprise.
Oui, de prendre les grandes directions. Non, donc ça veut dire qu'il faut que l'État sorte de Renault.
Monsieur Roquette, si l'État veut diriger Renault, ça s'appelle nationaliser Renault. C'est pas tout à fait la même politique que celle que je veux pour l'économie française. Moi, je crois qu'il y a le secteur privé, il y a le secteur public, et que le rôle de l'État, c'est d'œuvrer et de vérifier la préservation de l'emploi et la préservation des centres stratégiques dans notre pays. C'est de vérifier que c'est un bon accord pour l'emploi et pour l'avenir. Ça n'est pas de s'immiscer dans la gestion des entreprises privées.
Alors, peut-être qu'Édouard Philippe en parlera mercredi dans son discours de politique générale, puisqu'il va prononcer ce discours, le Premier ministre, et demander la confiance des députés. Si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous voteriez contre la confiance?
Moi, je ne voterai pas la confiance à Édouard Philippe. J'attends du gouvernement une inflexion politique radicale. Parce que la droite moderne que je veux incarner, elle est puissamment réformatrice. Pourquoi elle est réformatrice ? Pour faire des économies sur la dépense publique. Parce que si on fait des économies sur la dépense publique, on baissera les impôts. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est l'emploi. Pourquoi, aujourd'hui, on crée moins d'emplois en France qu'ailleurs ? Eh bien, tout simplement, peut-être, parce que les impôts de production sur les entreprises sont trop élevés. Pour baisser ces impôts de production, il faut baisser les dépenses publiques. De la même façon, quel est l'autre problème en France ? C'est que les Français n'arrivent pas à vivre décemment de leur salaire ni de leur retraite. Eh bien, le sujet, c'est la réforme des retraites. Réforme des retraites.
On va en parler.
Et l'autre sujet, c'est la baisse de la dépense et la baisse de tous les impôts. Parce que les impôts, c'est pas que l'impôt sur le revenu. C'est tous ces taxes, ces charges qui ne cessent d'augmenter. On donne d'un côté, on reprend de l'autre. Les Français sont pas dupes.
Vous êtes 17
milliards de cadeaux d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron va échouer.
C'était pour les européennes et il n'y a pas de baisse d'impôts durable sans baisse des dépenses.
Vous êtes convaincu que Emmanuel Macron va échouer dans sa politique économique ?
Aujourd'hui, le compte n'y est pas.
Mais on crée des emplois de nouveau.
Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et si le compte n'y est pas, Emmanuel Macron n'aura pas de deuxième chance. Il a eu la crise des Gilets jaunes qui a été un vent extrêmement violent. Il s'est rétabli à travers le grand débat. Il a dit qu'il avait entendu, mais maintenant, il faut qu'il fasse. Il ne peut pas avoir juste les paroles de la droite sans avoir les actes de la droite.
Mais vous entendez aussi ceux qui
n'ont pas dit qu'il faut l'aider. Les solutions de la droite sont celles qu'il faut pour le pays.
On parlait des 72 maires. Ceux qui vous disent qu'il faut l'aider, voilà, on est dans une nouvelle ère, il n'y a plus la droite contre la gauche, il faut l'aider, il y a ces 72 maires ce matin qui le rejoignent. Est-ce que c'est de l'opportunisme ou est-ce que vous entendez aussi ce message de rassemblement, peut-être d'union nationale?
Mais attendez. À chaque fois que les choses vont dans le bon sens, il faut les voter. Moi, j'ai été la première à appeler, alors que les Républicains ont longtemps hésité, à soutenir la réforme de la SNCF. C'était une évidence pour moi, il fallait la soutenir. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi les Républicains ont voté contre, il y a deux semaines, la réforme de la fonction publique, qui va dans le bon sens. Quand des réformes vont dans le bon sens, il faut les voter. Ou au moins s'abstenir, parce que sur la réforme de la fonction publique, la réalité c'est qu'elle va pas assez loin. Elle va pas assez loin. Donc quand ça va pas assez loin, il faut le dire.
C'est bien,
aussi.
Mais c'est pas assez, Macron, en fait, c'est ça.
C'est des paroles. Non. Vous êtes en train de déformer ce que j'ai dit. J'ai dit que Macron ne menait pas une politique de droite, ni sur l'autorité, parce qu'il n'y a pas de volet sanction, ni sur la laïcité, la lutte contre le communautarisme, ni sur la lutte contre les fractures. Je vais vous donner un exemple. Moi, aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils ont commencé dans ma région. Ça ne se sait pas. Ils ont commencé en Seine-et-Marne, avec M. Drouet et Mme Ludovski. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pire relégation que d'être à quelques dizaines de kilomètres d'une grande métropole et de n'avoir pas de train, pas de service public, pas d'accès à la santé. Alors, moi, j'avais dit au gouvernement, ma priorité, c'est la ligne Paris-Provins 3, la dernière ligne non électrifiée d'Île-de-France. Et le gouvernement a refusé de payer les 50 millions d'euros qu'il devait pour cette ligne. C'est moi qui ai dû faire l'avance. Donc ne dites pas que M. Macron a compris la question de la réduction des fractures. Il n'a pas compris.
Il peut se passer la dépense publique, mais en l'occurrence, ça faisait une dépense de plus. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu.
Mais M. Roquette, justement, moi j'ai baissé d'un milliard d'euros les dépenses de fonctionnement de ma région. J'ai arrêté tous les gaspillages. J'ai fermé 15 structures qui vivaient avec des frais disproportionnés et qui n'avaient pas d'utilité. Pourquoi ? Pour récupérer ce milliard et le mettre sur des investissements d'avenir. C'est les investissements qui créeront la richesse. C'est le fait que tous les habitants du Provinois, tous les habitants de l'Aube pourront venir à Paris rapidement et dans de bonnes conditions, pourront se déplacer, pourront exporter leurs produits parce qu'ils arriveront à Paris très vite. C'est ça qui créera demain la prospérité de la France. Il faut une politique d'investissement public et pas de gaspillage public.
Revenons, on va y revenir sur la politique nationale. C'est l'heure de Questions Express.
Le Grand Jury, Questions Express.
Valérie Pécresse, quelques questions pour ou contre la PMA pour toutes les femmes?
Cette question, c'est bien parce que...
C'est pour ou contre?
C'est bien parce qu'à chaque fois que je viens en grand jury,
oui,
vous me la posez.
Peut-être, on peut
donc,
évoluer,
c'est bien,
on peut
donc changer d'avis, dites-nous. Je peux juste vous dire une chose, c'est que les problèmes des Français ne se résument pas à ce sujet de la PMA. Mais je vais répondre parce que ma réponse, elle n'a pas changé.
Oui.
Moi, je suis, en tant que femme, en tant que féministe, très sensible au désir d'enfant qui s'exprime. Mais j'ai des sujet éthique très fort qui aujourd'hui m'empêche d'être favorable à cette réforme, c'est l'accès aux origines des enfants. Je souhaite, parce que tous ces enfants ont un père biologique, que à leur majorité à 18 ans, ils puissent avoir accès à l'identité de celui qui leur a donné leur patrimoine biologique. Et par ailleurs, je suis totalement hostile, là encore en tant que femme, là encore en tant que féministe, à la marchandisation du corps humain. Et je souhaite que la France prenne le leadership dans le monde d'un mouvement contre la marchandisation du corps des femmes.
Donc contre la GPA.
Et donc complètement contre la gestation pour autrui. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que je n'ai pas changé de réponse depuis la dernière.
Et le remboursement de la PMA, si jamais elle est votée.
Mais enfin, je viens de vous dire que j'étais pas favorable pour plein de raisons. Donc vous n'allez pas me
non,
dire.
Vous êtes totalement
pas
même, non, c'était si jamais c'était amendé. Donc vous nous dites vous êtes contre. La réduction de 24 mois à 12 mois des allocations chômage, ça peut être une piste du gouvernement pour la réforme des allocations chômage, Valérie Pécresse?
Pardon ?
La réduction de 24 mois à 12 mois des indemnités chômage.
De la durée d'indemnisation.
Je pense qu'aujourd'hui, quand on tombe au chômage, il faut absolument qu'on soit ramené dans l'emploi très très vite. Et c'est ce que je suis en train de faire à la région. On est en train de lancer un plan d'un milliard d'euros de formation individuelle pour les chômeurs, pour les demandeurs d'emploi. Non mais c'est important, non mais attendez, pardon. Si je peux finir une réponse.
Non, mais on doit avoir la réponse à cette
question. Vous allez l'avoir, très clairement, parce que moi, je ne me dérobe pas, je réponds à toutes vos questions. Non. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est bon pour les personnes en demande d'emploi. Ce qui est bon, et vous le demanderez d'ailleurs à Laurent Berger de la CFDT qui se fait souvent l'avocat de cette question, c'est que dans les six premiers mois, on remette les chômeurs, on remette le pied à l'étrier aux chômeurs. Et donc les laisser pendant 24 mois toucher des allocations,
c'est trop long.
Ça les éloigne de l'emploi et ça les rend moins employables parce que c'est une illusion d'optique. On se dit j'ai 24 mois donc je verrai dans un an, où j'en suis.
Donc non. On réduit à combien, Valérie Pécresse ?
Mais il faut faire une réforme. Après, la question c'est...
Les cadres sup, c'est ce qu'on
envisage là. Attendez. La question, elle est plus complexe que ça. Je pense qu'on ne peut pas traiter de la même façon des personnes qui ont travaillé 2 ans dans une entreprise et qui ont 35 ans et qui sont donc très facilement réemployables, et des personnes qui ont travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise et qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain à 50 ans. Ça n'est pas la même chose. Donc moi, ce que je souhaite en matière d'assurance chômage, c'est qu'on retrouve une logique assurantielle, que la durée d'indemnisation puisse être proportionnelle à la durée de cotisation et que donc ce ne soit pas la même durée quand on a cotisé 30 ans ou quand on a cotisé 2 ou 3 ans et qu'on est très facilement réemployable.
Pour ou contre, Valérie Pécresse, un bonus pour une retraite plus tardive à 64 ans, c'est une des pistes évoquées par le gouvernement.
Bon, ça, c'est une nouvelle entourloupe d'un gouvernement qui ne veut pas dire la vérité aux Français. La vérité, oui, elle est très simple. Nous allons vivre plus longtemps et nous avons besoin aujourd'hui de financer toute cette durée de la retraite et de garantir le niveau des retraites. Pour le garantir, ce niveau des retraites, pour ne pas rompre le pacte de confiance que nous avons avec les retraités, nous allons avoir besoin de travailler jusqu'à 64 ans, peut-être même 65. C'est ce que j'ai eu le courage de dire, ce que d'autres ont dit, Xavier Bertrand, Éric Woerth. Voix singulière.
Agnès Buzyn, ici même.
Voix singulière, d'ailleurs, à droite, parce que pour l'instant, les Républicains ne se sont pas prononcés sur ce sujet. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut... Il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire l'âge légal, ce sera 62 ans, mais en réalité, si vous voulez votre retraite vraiment, ce sera 64. Ça, c'est de l'habileté. Les Français ne veulent pas des hommes et des femmes d'État habiles. Ils veulent des responsables politiques qui leur disent franchement les choses, parce qu'ils sont capables. Ils sont capables d'entendre la vérité. En revanche, si on fait ça, il faut que l'argent qui sera, l'argent qui sera dégagé puisse permettre aussi de revaloriser les petites retraites, parce qu'on ne peut pas vivre avec moins de 1 000 euros par mois. Donc ça n'est pas possible. Donc il faut revaloriser les petites retraites. Et puis que cet argent serve aussi à valoriser, à permettre à ceux qui ont des métiers pénibles de partir beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a des métiers dans lesquels le corps s'use. Et quand le corps s'use, on ne peut pas continuer à travailler jusqu'à 65 ans.
Pour ou contre, Valérie Pécresse, l'accompagnement des sorties scolaires par des mères voilées, c'est un débat qui est revenu sur le devant de la scène à l'occasion de la loi Blanquer.
Moi, je suis totalement hostile à ce que des personnes qui sont des auxiliaires du service public portent le voile. Mais je considère que les mamans sont des mamans. Donc il faut qu'on ait une position qui soit en fonction... du sujet. Si c'est une sortie scolaire avec des mamans, c'est une sortie scolaire avec des mamans. Si c'est une sortie scolaire accompagnée avec un vrai projet pédagogique, avec des auxiliaires du service public, évidemment.
Ça va être compliqué de savoir si dans certains cas on peut accepter des mères voilées, dans d'autres pas, je n'ai pas tout bien compris.
Quand il s'agit de faire venir les mamans, elles, c'est des mamans. Elles sont dans leur vie publique, elles portent le voile,
elles ont le droit de le porter,
elles peuvent être voilées. En revanche, si c'est une sortie pédagogique, s'il y a une vocation pédagogique, si c'est dans le cadre de l'école, s'il s'agit de cours, de conférences, etc., eh bien dans ces cas-là, les auxiliaires du service public ne doivent pas porter le voile. Et il faut être très intransigeant sur cette question du port du voile par des personnes qui exercent une mission de service public.
Vous avez entendu Valérie Pécresse, c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats. Madame Pécresse, vous avez formulé une proposition de doublement des peines dans les quartiers sensibles. Vous êtes juriste, vous savez que la loi doit être la même pour tous. C'est un principe fondamental qui empêche de faire des discriminations entre les quartiers. Maintenez-vous cette proposition inconstitutionnelle? Et sinon, pourquoi ne pas plutôt vous intéresser à l'exécution des peines, puisqu'aujourd'hui, en raison de la surcharge des services de la justice et de l'administration pénitentiaire, elles sont exécutées avec retard et souvent dans des conditions déplorables?
Valérie Pécresse, cette proposition a fait beaucoup parler il y a quelques mois.
Oui, alors d'abord pour dire à cette magistrate que je suis totalement concernée par le problème de l'exécution des peines, qu'elle a totalement raison et que j'ai moi-même relayé l'appel des magistrats du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui disaient qu'ils avaient l'impression de prononcer, je les cite, des peines fictives. Des peines fictives. Parce qu'ils prononcent des peines lourdes pour des délinquants, d'habitude des délinquants multirécidivistes, des caïds, des voyous, et que ces peines ne sont pas exécutées. Donc je suis totalement mobilisée sur l'exécution des peines. J'ai même proposé, j'ai même proposé à Madame Belloubet de l'aider, c'est quand même pas le rôle de la région, à financer des places supplémentaires de prison avec l'argent de la région. Donc, c'est pour vous dire quand même que. Voilà.
Elle a accepté. Non, c'est intéressant. Elle a dit oui ou elle a dit non.
Je crois que, vu l'état d'impécuniosité de l'État qui n'arrive pas à baisser ses dépenses, Monsieur Roquette, eh bien, je crains malheureusement qu'elle ne fasse appel à moi, comme le ministre de l'Intérieur a fait appel à moi pour rénover les casernes de gendarmerie et les commissariats, ce qui, aussi, vous comprendrez, n'est pas le rôle traditionnel d'une région.
Mais le doublement des peines géographiques.
Oui, j'y reviens très tranquillement. Il y a aujourd'hui, au Danemark, une politique qui est menée. Qui est une politique extraordinairement intéressante et sur laquelle nous avons travaillé à Libre, qui est une politique d'éradication des ghettos, des quartiers d'apartheid urbain. Et pour mener cette politique, moi je crois qu'il faut trois axes. Fermeté, mixité sociale réelle et puis espoir de réussite. Voilà.
Mais ça, on dit toujours ça.
Non, attendez. Et la fermeté, que font les Danois? Eh bien, ils doublent les peines. Dans les quartiers les plus criminogènes. Ils font ce qu'on appelle une circonstance...
C'est constitutionnel ?
Monsieur Sportouche, ils font une circonstance aggravante territoriale. Et ils prennent un critère. Oui, c'est constitutionnel si on prend un critère clair. Le critère, ça doit être tous les lieux dans lesquels la criminalité est le double de la moyenne nationale. Dans ces territoires où la criminalité... et le double de la moyenne nationale, on peut avoir des peines qui sont aggravées, voire doublées. Et vous savez quel va être le premier territoire concerné en France, si on prenait ce type de loi ? Le premier territoire concerné.
Dites-nous.
Les Champs-Élysées. Parce que depuis des semaines, sur les Champs-Élysées, la criminalité organisée, les saccages, les bris, les violences font qu'on pourrait doubler les peines. Et donc on pourrait résoudre le problème de ces cagoules noires en doublant leur peine avec la loi que je propose.
Donc c'est ce que vous souhaitez toujours,
c'est ce que je souhaite,
et notamment pour
c'est ce que je souhaite,
ça s'appliquerait aux Champs-Élysées.
C'est ce que je souhaite parce que ça permet d'éradiquer les poches de violence. Et ce n'est pas une loi contre les habitants des quartiers, comme je l'ai entendu dire par une gauche qui a perdu ses repères. C'est une loi, au contraire, pour protéger les habitants de quartiers dans lesquels le crime s'est installé et ensuite où la population est désespérée.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Adan.
Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Alors vous avez rappelé durant cette émission votre engagement à la tête de la région Île-de-France et les internautes, eux, alors ils ont été plusieurs, Mickaël, Jean-Pierre, Ness, Ghislaine sur notre page Facebook, à vous rappeler que vous avez été élu sous l'étiquette Les Républicains. Et donc ils vous demandent, est-ce que par souci de cohérence, comme vous n'êtes plus chez Les Républicains, vous comptez démissionner de votre poste à la tête de la région Île-de-France?
Écoutez, je crois d'abord que je tiens mon mandat des électeurs franciliens, que ces électeurs, ils m'ont élu sur un projet de transformation et de rupture totale.
Un projet Les Républicains?
Non, pas du tout un projet Les Républicains, un projet Valérie Pécresse, excusez-moi de vous dire que ce projet, je l'ai conçu pour transformer complètement cette région. J'y ai passé 12 ans, c'est un combat fondateur pour moi, et ce projet, je n'ai pas changé d'un iota. Je vais continuer à le dérouler exactement. Donc tous ceux qui ont voté pour moi auront ce pourquoi ils ont voté pour moi.
Est-ce que vous comprenez qu'ils y voient une forme de trahison? C'est le mot qui est beaucoup revenu aussi pendant cette...
Mais je n'ai pas changé. Je défends les mêmes valeurs, je fais les mêmes propositions, et je suis toujours de droite, et je suis toujours dans l'opposition à Emmanuel Macron. Donc, pardon de le dire, mais ce n'est pas moi qui ai changé. C'est les Républicains qui ont changé.
Une toute petite question de Guillaume Roquette avant de revenir.
Oui, depuis le début de l'émission, vous prenez position sur tous les grands dossiers, bien au-delà de votre région. Est-ce que vous excluez aujourd'hui d'être candidate à l'élection présidentielle en 2022, puisque c'est presque un programme présidentiel que vous avez esquissé là avec votre
non,
droite
monsieur
moderne.
Roquette, mais il faut que vous compreniez. S'il n'y a pas une ligne politique de la droite moderne, il n'y aura pas d'alternative à Emmanuel Macron autre que le Front National. Et un jour, la coalition des extrêmes, parce qu'Emmanuel Macron est un colosse au pied d'argile, s'il échoue, s'il y a une deuxième crise des Gilets jaunes, si à un moment il n'a pas les résultats que les Français attendent, alors Marine Le Pen sera candidate et elle gagnera en 2022. Aujourd'hui, le sujet n'est pas mon ambition personnelle. Le sujet, c'est l'équipe collective que nous sommes en train de composer derrière Gérard Larcher pour essayer de reconquérir le cœur des Français et leur confiance.
Alors, à quel moment vous poserez la question ? À quel moment vous poserez la question d'une éventuelle candidature à la présidentielle ?
Mais enfin, franchement, je ne sais plus comment le dire. On vient de se prendre une baffe dans la gueule. On a fait 8,5%. La droite a fait 8,5% aux dernières élections il y a 8 jours. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça est complètement indécent ? On n'est pas en train de parler présidentielle. On est en train de parler de la France et des Français.
Alors justement, la France et la Marseillaise, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors hier, au début du match de football Turquie-France, la Marseillaise a été sifflée par les supporters turcs. Et sur Twitter, Marine Le Pen, elle demande à la FIFA de sanctionner la Fédération de football turc pour manque de respect. Je la cite. Est-ce que vous demandez, comme Marine Le Pen, que la FIFA sanctionne la Fédération de football turc ?
Je ne suis pas sûre que la Fédération de football turc ait eu quoi que ce soit à voir avec le fait que des Turcs aient sifflé la Marseillaise. Non, c'est totalement absurde, indécent, inimaginable que dans des rencontres internationales, on siffle l'hymne de l'adversaire. Donc il faut effectivement que la FIFA prenne ses responsabilités, qu'elle réaffirme, parce qu'on va avoir la Coupe du Monde féminine en France se déroule en ce moment, il faut qu'elle réaffirme très fortement les règles de bonne conduite dans les stades et qu'il y ait des interdictions de stade. Que quand on siffle un hymne, on soit interdit de stade. C'est comme ça qu'on réglera le problème.
C'est un sens politique, c'est sifflé ?
Bien évidemment, c'est un sens politique. C'est un sens politique parce que nous condamnons la politique de M. Erdogan en Turquie. Et nous avons raison de la condamner.
Une dernière question, Marie-Claire Haddad.
Oui, très rapidement, la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut abaisser la vitesse sur le périph' parisien de 70 à 50 km/h. Alors ça agace lourdement les internautes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes favorable à une vitesse à 50 km/h sur le périph' parisien ?
Eh bien, je vais vous dire une chose, je vais prendre mes responsabilités et je vais convoquer une grande réunion de concertation dans le cadre d'Île-de-France Mobilité que je préside, qui est donc l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, grande concertation avec tous les maires des villes limitrophes, tous les départements d'Île-de-France, toutes les associations, tous les représentants du monde économique. Là maintenant, à partir de maintenant, on va commencer. À l'automne, on aura la restitution de cette concertation. Je vais auditer avec des experts les propositions d'Anne Hidalgo, mais je tiens à rappeler deux choses. L'ennemi, c'est pas la route, c'est pas la voiture, c'est la pollution. Et deuxièmement, la voiture, malheureusement, restera en Île-de-France pendant encore de nombreuses années un réducteur puissant d'inégalités. Et moi, je n'accepte pas d'écologie antisociale.
Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.